6h47 minutes. Tout de suite, les enjeux internationaux. Thierry Garcin, vous débutez votre semaine spéciale. Quelle recomposition au Moyen-Orient et votre invité Mustapha Benchenan.
Voilà, universitaire Paris Descartes, Paris 5. Bonjour Mustapha Benchenan. Alors donc, après les tendances lourdes géopolitiques, l'État islamique comme organisation, maintenant la coalition anti-État islamique, quelle efficacité? Alors Mustapha Benchenan, il faut rappeler évidemment qu'elle a été décidée avec l'aval de l'ONU en septembre dernier. C'est un ensemble composite d'États arabes et de la Ligue arabe en tant que telle, d'États européens et de l'Union européenne en tant que telle, des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, de bien d'autres partenaires, et puis elle est dirigée de facto par les Américains. Elle est traversée de nombreuses contradictions, des contradictions militaires et surtout politiques. Ce qui est frappant avec le recul, Mustapha Benchenan, on s'indigne évidemment de la sauvagerie de l'État islamique, mais la part de responsabilité des États-Unis en 2003 dévastant l'Irak est absolument considérable. C'est ce que retiendront aussi les géopoliticiens dans 20 ans, dans 40 ans.
Si on ne remonte pas à la source, comme vous venez de le dire, c'est-à-dire à l'agression au sens du droit international américain contre l'Irak, on ne comprend pas ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai qu'il y avait un État unitaire, certes une dictature, mais un État fort qui rassemblait toutes les composantes de la population irakienne. Et l'intervention américaine a fait imploser l'Irak. Et depuis, c'est le chaos. L'Irak a connu, à partir de 2003, une double tragédie. La tragédie de l'occupation étrangère et la tragédie de la guerre civile.
Et la tragédie aussi d'avoir un président Maliki qui a ouvertement combattu dans tous les sens du terme les sunnites. Il n'y avait rien de plus urgent. Et d'ailleurs, il ne faut jamais humilier un vaincu.
Alors, les États-Unis ont mis en place ce régime de El-Maliki, qui est un régime exclusivement chiite, qui est un régime sectaire et qui a fait une politique d'épuration absolue de tout ce qui pouvait rappeler de près ou de loin le régime de Saddam Hussein. Moyennant quoi, il a créé des frustrations chez les sunnites, qui ont petit à petit basculé, et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui, dans le camp de Daesh. Car aujourd'hui, l'épine dorsale militaire de Daesh, ce sont bien les anciens officiers et sous-officiers de l'armée de Saddam Hussein. Et aujourd'hui, la solution pour combattre efficacement Daesh, elle est certes militaire, mais elle est d'abord et avant tout politique.
Et elle sera politique.
Et elle sera politique, et elle doit passer par Bagdad. Pourquoi elle doit passer par Bagdad? Il faut exercer des pressions sur le gouvernement de Bagdad afin qu'il s'ouvre aux éléments sunnites et qu'il les rassemble le plus largement possible afin de pouvoir ensuite créer un semblant d'armée nationale. Parce qu'il ne peut pas y avoir une armée nationale dans un pays gouverné exclusivement par une fraction de la population, fût-elle majoritaire, c'est-à-dire les chiites. Donc, et ainsi, on pourrait affaiblir Daesh politiquement en attirant politiquement dans un rassemblement le plus large possible les sunnites, les anciens de Saddam Hussein et les tribus sunnites qui aujourd'hui, ayant accumulé des frustrations, sont partie prenante de Daesh alors que c'est une alliance contre nature.
Alors cette coalition, comment est-ce que vous pourriez la caractériser, Mustapha Benchenan? C'est-à-dire, il y a des dizaines et des dizaines de partenaires, mais c'est un peu, on va dire, une marqueterie.
Alors on a parlé de coalition arabo-occidentale. En soi, c'était une initiative tout à fait respectable et souhaitable. Et quand on regarde la réalité, on se rend compte que cette coalition est hétéroclite. Pourquoi est-elle hétéroclite? Parce que chacun poursuit des buts différents. En principe, quand on forme une coalition, c'est qu'au préalable, on a identifié un ennemi commun.
Et le but de la manœuvre.
Et le but de la manœuvre et les buts de guerre. Or, aujourd'hui, on se rend compte, par exemple, que pour les Américains, l'ennemi principal, c'est Daesh. Mais pour l'Arabie Saoudite, ce n'est pas forcément Daesh.
C'est Bachar el-Assad.
C'est Bachar el-Assad.
Et les chiites.
Les chiites. Et parmi les chiites, évidemment, l'Iran, et avec la question du nucléaire. Pour l'Arabie Saoudite, l'autre priorité, c'est le Yémen. Et il faut avoir à l'esprit que Daesh, c'est, si je peux m'exprimer ainsi, c'est l'enfant naturel du wahhabisme saoudien. Le salafisme est une retombée du wahhabisme. Donc on a une coalition hétéroclite.
Les Turcs, évidemment, ont deux adversaires, c'est Bachar al-Assad et surtout les Kurdes.
Alors les Turcs ont laissé passer les armes, les hommes en direction de la Syrie, y compris les éléments les plus extrémistes. Et la Turquie est obsédée par une seule chose, prioritaire pour elle. Il ne faut pas que les Kurdes constituent un État indépendant en Syrie.
Ce qui se comprend, ou en Irak, ce qui est déjà le cas de facto.
Alors en Irak, les choses sont allées très vite et ça a été le produit de l'intervention américaine à partir de 2003. Il existe un Kurdistan irakien qui est plus qu'autonome. Il leur manque une seule étape à franchir, c'est de proclamer leur indépendance. Et les Turcs ne veulent surtout pas de cela en Syrie. Or aujourd'hui, les Kurdes syriens se sont renforcés militairement par les circonstances, c'est-à-dire la lutte contre Daesh. Et les Turcs sont prêts à intervenir militairement en Syrie contre Daesh pour empêcher les Kurdes syriens de se renforcer et d'avoir des velléités de création d'un État kurde en Syrie.
Ce qui, par voie de conséquence, renforcera d'ailleurs le régime de Bachar el-Assad, ce qui n'est pas le but du jeu vu d'Ankara.
Alors aujourd'hui, la question qui se pose et qui me paraît primordiale, c'est qui est l'ennemi principal dans cette configuration particulièrement complexe ? Si on ne désigne pas l'ennemi principal, on ne pourra pas mobiliser toutes ses forces afin de le vaincre. L'ennemi principal, il me semble aujourd'hui, c'est Daesh, bien avant le régime de Bachar el-Assad. Et aujourd'hui, il y a une confusion. La France, par exemple, refuse de désigner Daesh comme l'ennemi principal. Elle considère et elle met sur le même plan Daesh et le régime de Bachar el-Assad. Et il me semble que c'est là une erreur.
Oui, il y aura beaucoup de choses le moment venu un jour à dire quand même sur la diplomatie française en la matière. Et puis alors il y a le côté américain, c'est-à-dire on a l'impression depuis le début, et ce n'est pas un point de vue uniquement personnel, pour en parler avec beaucoup d'experts, c'est que les Américains ne veulent pas en fait de vainqueur déclaré dans l'affaire, que ce soit ni Bachar el-Assad, le régime on va dire syrien, ni évidemment l'État islamique.
Alors si ce n'est ni l'un ni l'autre, qui ? Voilà. Qui pourrait sortir vainqueur ? Est-ce que ce sont les modérés ? Alors, les modérés, c'est un terme générique qui est trop vague et qui ne désigne personne en particulier, parce que aujourd'hui, les modérés sur le terrain des rapports de force ne pèsent pas très lourd.
Non, les modérés syriens.
Je parle des modérés syriens.
Oui, et puis en plus, il y a l'opposition entre les modérés de l'intérieur et ceux de l'extérieur, entre ces modérés et puis l'armée syrienne libre ou ce qu'il en reste, et ainsi de suite. On voit qu'au fond, même les oppositions syriennes, l'opposition, sans générique du terme, syrienne n'a jamais existé.
Oui. Je pense qu'il est très très important, et je reviens à la question de l'identification de l'ennemi principal. Il y a l'ennemi principal d'aujourd'hui, et l'ennemi secondaire. À mes yeux, l'ennemi principal aujourd'hui, c'est Daesh. Parce que Daesh est porteur d'un projet politique totalitaire et que Daesh constitue une menace d'abord et avant tout pour les peuples musulmans, pour le peuple irakien, pour le peuple syrien, et accessoirement une menace pour les Occidentaux. Bachar el-Assad est une menace secondaire pour le moment dans ce contexte complexe. Une fois qu'on aura vaincu Daesh, eh bien on pourra ensuite s'occuper du régime de Bachar el-Assad. Mais on ne peut pas avoir deux ennemis principaux, si je puis dire, en même temps. Il faut choisir.
Il y a une chose aussi compliquée, c'est que finalement les États-Unis attaquent en toute légalité des cibles sur le territoire irakien, ça c'est sous couverture, sous mandat ONU, mais enfin, et en même temps, en toute illégalité, ils attaquent en territoire syrien, ce qui personne ne leur a demandé, et en même temps, ça se comprend très bien, mais enfin, on est là dans cette coalition est quand même seulement composite, mais parfaitement contradictoire sur le plan juridique.
Alors, sur le plan juridique, les Américains à partir
Pour les États-Unis.
Les États-Unis à partir de 2001 et les événements de septembre 2001 ont dit très très clairement que lorsqu'ils ont la conviction que leurs intérêts sont en jeu, s'ils peuvent passer par l'ONU, eh bien tant mieux, ils passent par le Conseil de sécurité. S'ils ne peuvent pas passer par l'ONU, ils mettront en action l'OTAN. S'ils ne peuvent pas mettre en action l'OTAN, ils feront des coalitions ad hoc. Et si ce n'est pas le cas, ils agiront par eux-mêmes et de leur propre initiative. Oui. Et ayant à l'esprit cette phrase extraordinaire de Robert Kagan, l'un des penseurs du courant néoconservateur, qui a affirmé, dans le contexte de la guerre en Irak, le droit est l'argument des faibles. Oui. Donc les Américains agissent.
On voit le résultat.
Voilà.
On voit le résultat. Bon, écoutez, juste d'un mot, c'est une coalition au fond plus militaire que politique, au fond.
Absolument. C'est une coalition militaire, mais si l'on ne traite pas le volet politique, la seule action militaire, surtout par l'aviation, par les airs, en bombardant, ne viendra pas à bout de Daesh. Il faut passer par la dimension politique et il faut une cohérence, une cohésion des fameux alliés arabo-occidentaux, faute de quoi Daesh prospérera.
Voilà, merci beaucoup Mustapha Benchenan, Paris Descartes. Et puis, il faut signaler la sortie de la revue Moyen-Orient dans quelques jours, puisque c'est le numéro de juillet, qui s'intitule « Bilan géostratégique de 2015, l'heure de Daesh ». Et c'est le numéro de juillet, donc la revue Moyen-Orient, toujours très utile. Franceculture.fr pour écouter l'émission durant 3 ans, la télécharger durant 1 an. Et puis, demain, nous parlons de l'Iran, mais de l'Iran en terre arabe, évidemment l'antagoniste, notamment avec l'Arabie Saoudite.